Donc nous continuons dans cette lettre envoyée par Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens. On va lire aujourd'hui les versets 4 à 10, mais je vais commencer tout à l'heure en rappelant un petit peu ce qu'on a vu au verset 1 et 3 pour ceux qui n'étaient pas là. Je vais juste rappeler où se trouve Thessalonique. Donc voilà une carte de la Méditerranée, alors on a Israël ici, et il s'agit du troisième voyage missionnaire de Paul, pardon, le deuxième voyage missionnaire de Paul, où il est parti d'Antioche, il est passé par la Turquie, et finalement il est arrivé à Troas, où il a vu en vision, un Macédonien, parce que ça c'est la région de la Macédonie ici, qui a dit « Viens, secours-nous ». Et donc, on dit toujours que c'est la première fois que l'Évangile a quitté l'Asie pour arriver en Europe, donc à la ville de Philippe. Il est parti de Philippe, il est arrivé, il est passé par là, il arrive à Thessalonique, qui existe toujours aujourd'hui, mais on l'appelle Salonique aujourd'hui, on a perdu le début du mot, donc c'est Salonique. Où, en fait, on va lire le texte tout à l'heure, mais pas tout de suite, de ce qui s'est passé là-bas, où il y a une certaine réussite, mais une grande persécution en même temps. Donc voilà, c'est pour situer, et après, Paul, il est passé à Athènes, dans la partie sud de la Grèce, qui s'appelait à l'époque l'Achaïe, donc on va voir ce mot dans le texte, donc ça c'est la Macédoine et l'Achaïe, avant de revenir à Jérusalem pour raconter ce que le Seigneur a fait pendant ce voyage. Mais je vais lire d'abord les versets 4 à 10 de cette lettre, la première lettre aux Thessaloniciens. Nous savons, frères et sœurs, aimés de Dieu, qui vous a choisis. Parce que notre évangile nous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés, mais avec la joie du Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tourné vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Petit retour en arrière pour les trois premiers versets, où Paul les salue et dit « Je dis constamment à Dieu ma reconnaissance en se souvenant d'eux pour trois choses. » Donc la traduction que j'ai dit « L'œuvre de votre foi, le travail de votre amour » et la fermeté de votre espérance. Ou dans dans la Bible en français courant, j'aime bien la traduction, à quel point vous avez mis votre foi en pratique, à quel point votre amour vous a rendu actif, et à quel point votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ est ferme. J'aime beaucoup cette traduction. À quel point leur foi a été mise en pratique. Parce que nous avons défini la foi comme étant, vivre en fonction de la révélation de Dieu. On a pris cette définition dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Donc, tout ce que Dieu a révélé, bon, la foi, c'est de vivre en fonction de cela. Maintenant et pour toujours. Puis, à quel point votre amour vous a rendu actif. Et on a vu qu'il y a trois grandes vertus. Le terme un peu savant, c'est les vertus théologales, la foi, l'espérance et l'amour. Paul les mentionne ensemble à plusieurs reprises, et notamment dans 1 Corinthiens 13, où il dit que la seule qui va rester éternellement, c'est l'amour, parce qu'on n'a plus besoin de foi, on va voir, mais plus d'espérance, parce qu'on y sera. Donc il restera l'amour. Et la troisième chose, c'était la fermeté de leur espérance. Et nous avons parlé de cette espérance qui est l'espérance de la vie éternelle dans le cadre de la nouvelle terre et du nouveau ciel que le Seigneur va créer. Et nous aurons donc un corps spirituel et nous vivrons éternellement devant Dieu. Donc ça, c'est notre espérance. Alors, tout cela... On peut se poser la question, voilà, mais comment ça se fait que les Thessaloniciens ont ce comportement-là? Olivier a déjà donné la réponse ce matin dans le titre. Parce qu'en fait, c'est parce qu'ils ont cru en Jésus, ils ont vécu une, ce qu'on appelle une conversion. D'ailleurs, à la fin de ce chapitre, verset 9, Paul écrit, vous êtes tourné vers Dieu. Et le mot conversion, c'est ça que ça veut dire. Se tourner vers Dieu. Convertir, se convertir, c'est faire demi-tour. Donc, leur conversion, ils sont devenus chrétiens. Et c'est là où, juste pour situer mieux cela dans le temps, on va lire le récit de l'arrivée de l'évangile à Thessalonique. Et c'est dans Actes 17. Les versets 1 à 10. Donc je vais lire ce récit. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Et Paul y entra, conformément à son habitude, et pendant trois sabbats, il discuta avec eux à partir des Écritures, donc de l'Ancien Testament, en expliquant et démontrant que le Messie devait souffrir et ressusciter. « Ce Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Messie. » Quelques-uns d'entre eux furent convaincus et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'un grand nombre de non-juifs qui craignaient Dieu. Donc les non-juifs qui craignaient Dieu, c'était les prosélytes, donc les non-juifs qui avaient accepté la religion juive, si on veut, sans être juifs. Et aussi beaucoup de femmes importantes. Je crois que dans certaines traductions, ils disent de femmes de la haute société. Verset 5. Cependant, les juifs restés incrédules prirent avec eux quelques vauriens qui traînaient sur les places. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui que ça existe. On pourrait presque traduire, ils ont pris quelques racailles de la cité. Et ils ont provoqué des attroupements et semèrent ainsi le trouble dans la ville. Puis ils se rendirent à la maison de Jason et cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Et Jason les a accueillis. Ils agissent contre tous les édits de l'empereur, en prétendant qu'il y a un autre roi, Jésus. Et par ces paroles, ils troublèrent la foule et les magistrats, qui ne relâchèrent Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Et on suppose que la caution, c'est vous faites partir Paul et Silas. Donc, le verset 10 l'explique. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour opérer. Et c'est là qu'ils sont allés de nouveau à la synagogue. Il y a cette belle phrase que les Bériens étaient plus nobles et examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce que Paul et Silas disaient était vrai. Donc, voilà le contexte de la conversion de ces Thessaloniciens, un peu dans la difficulté, comme on va voir tout à l'heure. Et nous avons également, il y a 15 jours, parlé de ce verset 1 Jean 4, 7 et 8. « Et au culte du soir, on a fait 1 Jean, donc ils connaissent par cœur. 1 Jean 4 maintenant. Parce que j'ai posé la question, mais qu'est-ce qui explique ce comportement? C'est leur conversion. Qu'ils avaient la foi, l'amour et l'espérance. Et 1 Jean 4, 7 et 8 le dit en toutes lettres. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc si on est né de nouveau, normalement on va aimer les frères et les autres. C'est normal, parce qu'on est né de nouveau, on est devenu chrétien. C'est ça qui explique le comportement. Mais la question que je me pose ce matin, d'abord dans ce texte, c'est... Alors, qu'est-ce qui a amené les Thessaloniciens à se tourner vers Dieu? Qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont convertis? C'est une question qu'on se pose. On s'est posé cette question pour plusieurs personnes dans l'Église. On a prié pour ces personnes. Mais qu'est-ce qui les a amenés, ces Thessaloniciens, à se convertir? Et ce que j'ai trouvé dans ce texte, c'est qu'en fait, il y a 3 réponses. Cela nous aide un petit peu, nous aussi. Je pense. Il y a 3 réponses complémentaires. Complémentaires, ça veut dire qu'ils se complètent. Il faut les 3 réponses. La première réponse, c'est le choix de Dieu. Donc, cela, on le voit au verset 4. Nous savons, frères et sœurs aimés de Dieu, qui vous a choisi. Le mot classique dans la théologie, c'est « il vous a élu ». Par d'élection. Enfin, ça veut dire choisi. Donc, j'ai élu quelqu'un, j'ai choisi cette personne. Donc, ils ont été choisis par Dieu. Et c'est donc... on a même fait un culte du soir sur cette question de du choix, de l'élection de Dieu, de la prédestination. C'est un sujet très, très intéressant. On ne prétend pas tout comprendre. Mais on ne peut pas dire autrement que Dieu nous a choisis si nous sommes chrétiens. Et la preuve, en quelque sorte, c'est de dire, mais si je pose la question, mais pourquoi moi je suis là ce matin, pourquoi je suis chrétien alors que d'autres ne sont pas? Ah, c'est pas parce que j'étais plus malin pour choisir Jésus, en quelque sorte. Hein. Sinon, ça revient à une sorte de salut par les œuvres. J'étais meilleur que les autres parce que j'ai fait ce choix. On est obligé... Pour rester humble de parler de ce choix, je vous ai mis 2 autres versets tant qu'à faire, hein, donc pour soutenir cela. Éphésiens 1, verset 4. En Jésus, Dieu nous a choisis avant la création du monde, afin que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Donc par le sang de Jésus. Deuxième verset, c'est dans 1 Pierre. Chapitre 1, verset 2. Pardon, c'est le verset 1, c'est la fin du verset 1. À vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu le Père et conduits à la sainteté par l'Esprit, purifiés par le sang de Jésus-Christ. Si j'ai lu ces 2 textes, c'était parce qu'il y en a un qui vient de Paul et l'autre qui vient de Pierre. On ne peut pas dire que cette question d'élection, c'est une invention de Pierre, de Paul, le grand théologien. Donc voilà, Pierre dit exactement la même chose que Paul. Nous sommes choisis. Et quelque part, nous devons accepter cela. Cela ne nous empêche pas de prier pour les personnes. Mais je ne suis pas convaincu que Dieu est obligé d'écouter nos prières dans ce domaine-là. En revanche, je pense que Paul lui-même a prié pour son propre peuple. Il aimerait être séparé même de l'Évangile. Hein. Mais si j'ai dit ça, c'est, je pense à un grand prédicateur du 19e siècle qui s'appelait Spurgeon. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Spurgeon, un prédicateur anglais, qui apparemment avait l'habitude de prier « Seigneur, sauve les élus et élise en d'autres. » Bon, c'est une façon de le dire, mais bon, bien sûr, nos prières font partie du plan de Dieu. Même, donc, rien ne nous empêche de prier, mais quand même la première réponse, c'est que Dieu a choisi ceux qui vont lui appartenir en tant que chrétien. C'est la première réponse. Mais c'est pas tout. La deuxième réponse, c'est qu'il y a la conviction du Saint-Esprit en utilisant d'abord les mots de Paul, donc on veut dire nos mots aussi. Ça c'est le verset 5, le début du verset 5. Parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine conviction. Et cela m'a fait penser à ce texte qui se trouve dans Jean 16. C'est au cours des derniers jours de Jésus, tout l'enseignement qu'il donne à ses disciples. Il leur dit que le Saint-Esprit va les aider à comprendre les Écritures, mais aussi aider, enfin, intervenir, on va dire, auprès de ceux qui ne sont pas chrétiens, en leur donnant cette conviction. Donc, c'est le chapitre 16 et les versets 7 et 11. Je vous les lis. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Donc, c'est Jésus qui parle à ses disciples. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde. Donc, on parle des non-chrétiens là. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, je pense que l'on peut être d'accord que finalement, si on essaie d'expliquer des choses à ceux qui ne sont pas chrétiens, on a l'impression que nos paroles tombent dans des oreilles qui n'entendent pas. Donc, il faut la conviction du Saint-Esprit. Pourquoi ? D'abord, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Parce que le plus grave des péchés, c'est de ne pas croire en Jésus. Ce n'est pas le meurtre, ce n'est pas l'homosexualité, ce n'est pas le mensonge, même s'il y a des choses qui sont graves. C'est le fait de ne pas croire en Jésus. Parce que c'est lui le sauveur. Donc, le Saint-Esprit va convaincre du péché. Deuxièmement, il va convaincre de justice. Et Jésus ajoute, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Tant que Jésus était dans le monde, des gens voyaient la justice incarnée. Mais puisqu'il n'est plus là, il fallait que le Saint-Esprit convainque de cette justice. Et troisième chose, c'est le jugement. Si, tout en étant respectueux de ce thème terrible, je pourrais dire que le jugement, c'est pas un produit facile à vendre. Parce que personne ne veut être jugé. Et dire que le jugement existe, c'est vraiment quelque chose de difficile à communiquer. Donc il fallait absolument qu'il y ait cette conviction du Saint-Esprit. Et comment le Saint-Esprit va convaincre? C'est par les paroles, parce que Paul a dit, donc il n'y a pas que des paroles seulement, mais il faut que ce soit des paroles accompagnées par la puissance du Saint-Esprit. Mais partout dans le Nouveau Testament, on nous dit que si quelqu'un nous pose une question, il faut répondre, il faut que les paroles soient prononcées. Mais il faut la conviction du Saint-Esprit avec. Donc voilà la deuxième chose. La première chose, c'était comment expliquer la conversion, l'élection de Dieu. La deuxième chose, c'est la conviction du Saint-Esprit, en utilisant les mots donc, de Paul. Et la troisième chose, c'était l'exemple de Paul. C'était l'exemple de Paul, qui a dit, là je commence la deuxième partie du verset 5, « Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. » Donc on a lu tout à l'heure dans Actes, hein, que c'était reçu dans de grandes difficultés. Persécution, accusation qu'on prêchait un autre roi que l'empereur, caution imposée par les magistrats, enfin, tout le reste. Donc c'était, ça faisait partie donc, du contexte de leur conversion. Mais ils ont vu comment Paul agissait. Et cela est aussi important. Il faut que les gens voient dans notre vie que nous sommes cohérents par rapport à notre foi et que nous le croyons vraiment. Et ça, ils vont voir en nous regardant. Si on veut, pour le dire d'une autre façon, ils ont pu voir Jésus incarné. Mais où est l'incarnation de Dieu maintenant? C'est le corps de Christ, c'est nous, les églises. Donc, c'est nous que les gens voient. Ils ne comprennent pas les paroles, souvent, mais ils nous voient. Et donc, j'ai mis plusieurs textes qui vont dans ce sens-là. Jean 13, 35, j'ai tellement dit dans cette église au cours des derniers mois. Et à un certain moment, j'avais même offert un de mes livres à la première personne qui allait me citer ça. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et puis dans Philippiens 2 et le verset 4, on dit que nous devons penser aux intérêts des autres avant les nôtres. Tout ça, c'est la révolution. Parce que comme on a dit, on a beaucoup dit ces derniers temps, c'est que dans notre contexte aujourd'hui, c'est souvent moi d'abord. Pas de façon, on peut dire, revendicatrice, mais tout simplement, comme je l'ai cité la semaine dernière, le magasin qui se trouve rue des Dames, hein, donc qui s'appelle I Love Me. Donc je m'aime moi-même, ça c'est le nom du magasin qui s'est ouvert. Donc, on veut de l'espace, on veut du temps pour soi, c'est le développement personnel, et de dire, comme Paul le dit dans Philippiens 2, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Bon, le vrai rebelle aujourd'hui, c'est la personne qui va regarder les intérêts des autres et pas les siens. Ça, c'est le vrai rebelle aujourd'hui, parce que tout le monde fait, je regarde d'abord à moi. Si on veut être rebelle, Philippiens 2, 4. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Et même dans Thessaloniciens, par deux fois, on voit la même chose. Chapitre 3 et le verset 12. Que le Seigneur fasse grandir. C'est une prière, hein? Que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes. À l'exemple de celui que nous avons pour vous. C'est ça que les gens veulent voir, hein, qu'on les aime. Et puis au chapitre 5 et le verset 15, « Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, en tant que chrétiens, soit envers tous les hommes. » Donc chaque fois c'est entre chrétiens, mais envers les autres. Et c'est ça que l'on va voir. Et donc l'exemple de Paul est très clair. Ou pour résumer ce que l'on vient de dire, une conversion nécessite trois choses. L'intervention de Dieu, donc son choix, nos paroles que Dieu utilise, et notre vie comme exemple visible du changement. Les trois sont nécessaires. On ne peut pas dire, par exemple, moi c'est Dieu qui fait son choix, donc ce que je parle ou non, ou ma vie n'a pas d'importance. On a besoin, Dieu se sert de cela, justement, ça fait partie de son plan pour sauver les autres. Donc voilà les trois aspects de la conversion que je vois dans ce texte. Alors pour arriver jusqu'au dernier verset de ce texte, on peut dire ceci, que à leur tour, les chrétiens à Thessalonique sont devenus des exemples. Bon, j'ai cité 1 Corinthiens 11 où Paul a dit également aux Corinthiens qui sont devenus ses imitateurs. Et c'est dans ce sens-là que ceux qui ont fait plus de progrès dans la vie chrétienne ont une grande responsabilité envers ceux qui se convertissent pour montrer comment il faut faire. Parce qu'on imite, c'est normal, c'est humain. J'ai eu, quand on avait nos petites filles à la maison, il y a 15 jours, tous les gestes que je faisais, elle répétait. À un certain moment, elle m'a amené son petit chien en plastique. Bon, j'ai fait un petit tape sur la tête et pendant 2 jours, elle faisait la même chose. Hein, donc, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Et je me souviens même à Nancy, un couple qui s'est converti. Et puis, dans le mois après, il avait acheté le même attaché-case que moi, que j'avais pour ma Bible. Bon, c'est normal dans ce sens. Donc, grande responsabilité hein, de ceux qui se convertissent après. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut placer ce verset de Matthieu 28, donc, qui est le grand ordre missionnaire. Matthieu 28, que vous connaissez par cœur. Hein. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Donc, de mettre en pratique. Donc, comme j'ai expliqué dans mon petit livre sur le discipulat, disciple 24-24, ça veut dire aimer Dieu, aimer les autres, faire confiance à Dieu, obéir à Dieu. C'est simple. Il n'y a que 4 choses à faire. Après, il faut une vie pour apprendre à la faire, c'est autre chose. Hein. Mais bon, il n'y a que 4 choses à faire. Aimer Dieu, c'est le premier commandement. Aimer son prochain, ou aimer les autres, deuxième commandement. Faire confiance à Dieu, dans toutes les circonstances de la vie. Et combattre le bon combat pour obéir à Dieu. Voilà, c'est simple. Mais c'est l'apprentissage de la vie. N'oublions pas que disciple veut dire apprenti. Donc voilà, les Thessaloniciens sont devenus également donc des exemples. Je reviens donc dans notre chapitre et je lis le verset 7. Ainsi vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe, donc le nord de la Grèce et le sud de la Grèce. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître. Donc les gens savaient, les gens avaient entendu parler, ils sont devenus modèles à leur tour. Et donc heureusement, parce que certainement il y avait des disciples en Grèce, qui avaient des disciples, qui avaient des disciples, qui avaient des disciples, etc. Et c'est comme cela que un jour, quelqu'un nous a témoigné aussi, et que nous nous sommes convertis, donc de génération en génération. On va dire que c'est comme ça que ça s'est passé, depuis déjà 20 siècles. Et pour arriver à la fin de ce chapitre, donc partout dans la région, on est au courant de leur conversion, et on voit 3 éléments de cette conversion. Ils se sont tournés vers Dieu. Donc, ce qu'on veut refléter autour de nous, c'est que les gens disent, ah ben, eux, ils vivent avec Dieu. Ils sont tournés vers Dieu. Dieu fait partie de leur vie. On ne peut pas enlever ça. Ce n'est pas une petite partie qui ne concerne que le dimanche matin. C'est toute la vie, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Ils ont abandonné, deuxième chose, ils ont abandonné leurs idoles. Donc, les idoles, c'est tout ce qui remplace l'adoration du seul vrai Dieu. Donc, qu'est-ce qui devient plus important que Dieu? C'est ça. Qu'est-ce qui devient plus important de Dieu? Et les Thessaloniciens ont montré, les gens ont dit, bah, pour eux, Dieu, c'est le numéro un, c'est le plus important, ce qu'il veut, c'est ça que je veux faire, je veux l'adorer, je veux lui obéir, je veux lui faire confiance dans toutes les circonstances. Et puis, la troisième chose, c'est par rapport à ce jugement que j'ai mentionné tout à l'heure. Ils étaient devenus conscients de la nécessité du pardon face au jugement dernier. Donc, je vais lire ces 2 versets, versets 9 et 10. On raconte quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Je vais prier pour terminer ce moment d'enseignement. Seigneur, tu sais combien nous voulons vivre de cette façon-là. Ça nous touche le cœur. On a vraiment envie de vivre pour toi, le seul Dieu vivant et vrai. Et il est vrai aussi qu'il y a des gens autour de nous, on aimerait bien vraiment qu'ils se tournent vers toi. Et nous voulons demander, Seigneur, que tu nous donnes les paroles et la façon de vivre qui peut les interpeller, non pas d'abord pour eux, mais pour toi. Nous voulons être tournés vers toi et que les gens puissent le voir. Seigneur, sanctifie-nous, fais-nous progresser dans la foi, fais en sorte que nous puissions aimer vraiment les gens autour de nous et qu'on puisse exprimer notre espérance malgré ce qui semble être les sujets de désespoir dans ce monde. Seigneur, aide-nous vraiment à mettre en pratique notre foi. Au nom de Jésus. Amen. Amen.